Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bip Bip, le podcast dans lequel j'explique comment je réalise ma thèse sur la relation de confiance entre les professionnels de santé et les patients et comment je la finance grâce à mon business de formation des professionnels de santé. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous laisse écouter l'épisode 0 ou les résumés de saison et nous allons maintenant pouvoir commencer. Cette semaine a été sous le signe d'un congrès, le Congrès international de psychologie sociale, dans lequel je suis allé de mercredi à samedi. Et je crois que j'ai pas fait grand chose d'autre lundi et mardi, j'ai dû préparer une publication. Ce qui fait que j'ai pas grand chose à transmettre, ou en tout cas ça va être un épisode thématique sur mon premier congrès international en psychologie sociale. Je vais pas vous expliquer en détail toute ma vie, mais plutôt qu'est-ce que ça apporte et un petit peu faire la promotion pour ceux qui font une thèse et peut-être expliquer à quoi ça ressemble aussi pour ceux qui veulent faire une thèse. Voilà, épisode spécial, congrès international de psychologie sociale. Alors avant de commencer à expliquer ce congrès, j'ai une petite nouvelle qui est très personnelle mais qui fait plaisir. J'ai enfin soumis la deuxième version de mon article numéro 1. J'en suis très content. Ça a été fait en plein milieu du congrès. J'ai beaucoup travaillé ces derniers temps pour le finir. J'ai pris sur mes week-ends, j'ai pris sur mes soirs, même pendant le congrès. Ça m'a extrêmement fatigué parce que, en fait, la nouvelle manière de faire cet article, elle est assez différente de la première, je l'ai déjà expliqué. Je suis passé d'une étude à deux études, j'ai quasiment inversé ma conclusion de mon intro, j'ai remis des hypothèses à l'endroit, je suis allé remobiliser des données d'une autre étude pour la compléter. En fait, c'est vraiment un nouvel article, c'est quasiment comme si j'avais réécrit un article en quelques jours. Donc voilà, maintenant ça a été resoumis avec une lettre qui explique en quoi cette version correspond aux critiques des reviewers. Et maintenant, on est reparti dans l'attente d'une réponse. Et comme je l'ai déjà expliqué, maintenant, eh bien, ça peut être accepté directement. Ce que j'en doute, parce qu'il y a tellement de changements qui est fait que je pense que, en fait, c'est un nouvel article, donc ça va mériter de nouvelles précisions. Mais par contre, je trouve que c'est assez probable que la discussion continue. Pour moi, ce qui va se passer, c'est que les reviewers vont dire « Merci de l'effort qui a été fait, ça se voit que vous nous avez écouté, que vous avez changé l'article. Mais maintenant, on a de nouvelles questions, répondez à ces dernières questions et ça peut le faire. » Voilà. Franchement, si on a un rejet maintenant, après tout ce qui est fait et à quel point on correspond aux attentes, je trouverais ça vachement dommage. Par contre, l'article est mieux. Dans tous les cas, l'article est mieux. Donc, ça veut dire qu'on pourra le soumettre à un autre journal, je pense, plus facilement. Donc, voilà. Et même, en fait, de cette manière-là, l'article peut être inclus dans ma thèse. Donc, ça fait super plaisir de se dire ça. En fait, il était sur un sujet très précis et on l'a rendu un peu plus fondamental, ce qui fait que il peut sincèrement être inclus dans un sujet de thèse. Et ça, je trouve ça, ça fait du bien, quoi, de se dire que ce que j'ai fait avant pourrait être inclus. Ça se trouve, ma thèse pourrait être un peu plus rapide que ce que je le pense. Même si, voilà, la quête de rapidité commence à partir, et un peu par rapport aux dernières phases du congrès, et puis d'échanges que j'ai eus avec des amis, peut-être que, justement, il faut que je profite du temps de thèse pour asseoir mon sujet et pas me dire « je dois tout faire vite ». Voilà, à discuter peut-être en fin de podcast. Voilà pour ce qui est de l'article numéro 1. Pour les deux autres articles, je me donne pour objectif tout simplement de les finir cet été. Normalement, la semaine qui vient, là, celle pour laquelle j'enregistre le podcast, je vais finir l'article numéro 2, me semble-t-il. Celui sur l'analyse des... Non, pas du tout. Celui sur où je reprends la thèse d'un autre étudiant et où je crée une mesure de la confiance pour un groupe social. À vrai dire, une mesure de la fiabilité, c'est-à-dire à quel point je pense qu'un groupe social est fiable. Groupe social, par exemple, les infirmiers, les médecins, les supérieurs hiérarchiques. Je suis en train de créer une mesure à ce sujet et on est à 95% d'écriture. Et en fait, c'est ce sujet que j'ai défendu lors d'un congrès, parce que j'ai fait une présentation au Congrès international de psychologie sociale, où j'ai présenté globalement cet article en 15 minutes. Et en fait, ça me l'a éclairci, j'ai eu des questions intéressantes et ça me l'a remis en tête, ce qui fait que je pense que je peux relire. En fait, j'ai tout écrit, mais il fallait que je refasse une lecture. Et là, je pense que c'est le moment parfait, maintenant que j'ai essayé de le synthétiser en 15 minutes, de refaire une lecture et de l'envoyer, en fait, de le corriger et de mieux le vendre. Franchement, et c'est peut-être mon lien avec le congrès, je trouve que faire l'effort et l'exercice de résumer un de ces articles en quelques minutes, ça remet totalement en perspective ce qu'on a écrit. Et ça, en fait, quand on écrit, bah forcément, on a un point de vue très détaillé, mais justement pas assez général sur quel est le grand message, la grande histoire que je raconte, et quelle est la structure que j'ai quand je raconte cette histoire. Là où quand on écrit, on est un peu ligne par ligne, paragraphe par paragraphe, mot par mot, on se dit, ah, faut pas utiliser ce synonyme, ah là j'ai déjà utilisé cette tournure de phrase, il y a deux paragraphes, et on n'est plus vraiment sur un article comme un tout logique, argumenté, et qui se lit bien. Chose que là j'ai, parce que du coup je me suis entraîné, puis j'ai défendu l'article en 15 minutes. C'est un article qui fait pas loin d'une cinquantaine de pages, peut-être 40. Et donc le résumé en 15 minutes, ça fait vraiment un effort de se dire quelles sont les informations les plus importantes. Et si c'est les infos les plus importantes, et ben, ça veut dire que déjà je dois les mettre par exemple dans le résumé. Ça veut dire que en début de discussion, on doit un petit peu rappeler ce qui s'est déroulé dans l'étude. Et ben, en fait, ça doit sûrement ressembler à ça. Et voilà, le fait de mettre en avant les grandes lignes, et ben, c'est aussi ce qui doit être mis en avant dans la version longue. En mettant en accent, en rappelant un peu plus ces éléments-là. Donc voilà, le congrès m'a permis de me remettre en tête l'article, d'une part, et d'autre part, de mieux comprendre comment transmettre les grandes lignes et ce que vraiment il montre. Et donc j'en suis satisfait, j'ai même hâte de me prêter à l'exercice de relecture et de modification. Je me suis rendu compte, par exemple, mais c'est un exemple pour vous expliquer que dans l'article, je pose trois hypothèses. Et en fait, je me suis juste rendu compte qu'il était plus logique de poser l'hypothèse 3 et l'hypothèse 2 de manière inversée. C'est-à-dire que l'hypothèse 3 avait plus de sens d'être mis en hypothèse 2. Ça peut paraître minuscule, mais en fait, c'est assez important parce que quand on est dans son sujet, dans son thème, on se comprend facilement, mais il ne faut pas oublier qu'on parle à des auteurs qui parfois n'ont pas connaissance, ni connaissance sur notre sujet, ni la même connaissance sur notre sujet. Ça ne veut pas dire qu'on est meilleur, ça veut dire que chacun a un petit peu sa vision sur sa fenêtre de littérature. Et donc, en fait, quand on fait un article, on présente un peu notre vision de la littérature, ce qui fait qu'il faut être très clair et très cohérent. Et je suis content parce que je me sentais efficace dans la rédaction d'articles, mais je sens que j'ai un petit peu gagné en compétences en me rendant compte avant qu'on me le dise cette fois. De à quel point il faut être cohérent, il faut utiliser les mêmes mots-clés au même moment, parce qu'on ne peut pas dire, par exemple, moi je dis que je discute beaucoup de la nature des variables qui sont associées à la confiance, et si on dit que pour faire confiance, il faut percevoir la fiabilité de quelqu'un, ou il faut croire en la fiabilité de quelqu'un, eh ben, en psychologie, c'est super important parce qu'une perception, c'est quelque chose d'objectif qui est perçu par les yeux, et une croyance, c'est quelque chose de plus riche, instable, qui est enrichi de beaucoup de variables. Et donc, je ne peux pas, par exemple, un paragraphe dire perception et l'autre paragraphe dire croyance. C'est ce genre de détail sur lequel il faut être clair. Et donc, pareil pour, par exemple, des hypothèses. Eh bien, il y a une logique quand même générale de la manière dont on amène les hypothèses, et si c'est pas clair, ça peut perdre le lecteur et perdre aussi ceux qui nous relisent. Donc voilà, je sens que je suis en train de m'améliorer sur ça, et que le fait de reprendre précisément l'article, et en fait, quand on a trop la tête dedans, et je le savais, de toute façon, je l'ai dit la semaine dernière, quand on a trop la tête dedans, c'est difficile d'avoir un point de vue clair. Donc c'est les moments soit de faire une pause. Soit maintenant, je l'ai compris, de s'entraîner à se dire, bon, si je devais résumer mon article, à quoi ça ressemblerait, et ensuite de voir la version écrite et la version orale, soit de se faire relire par quelqu'un d'autre qui, lui, a une vision assez large. Et donc, finalement, j'ai adopté un peu toutes les stratégies, hein. Déjà, j'ai fait une pause sur cet article. Pendant le congrès, cet article, je l'ai résumé. Et sur l'article numéro 1, vu que j'avais totalement la tête dedans et qu'il fallait juste produire, produire, écrire, eh ben, j'ai pu échanger avec un des co-auteurs qui m'a fortement aidé à voir les choses de manière large et les manques de cohérence qu'on ne peut pas voir en fait quand on a la tête dedans. Donc voilà, ça aide. Je transmets ça même pour les étudiants qui ont des dossiers. Moi, j'ai toujours trouvé bien d'être un petit peu en avance et de pouvoir finir son dossier, par exemple, une semaine avant de le rendre, et puis on l'oublie quelques jours. Et la veille ou 2 jours avant de rendre un dossier de, je sais pas, de rapport de stage, etc., on le relit. Et là, je pense que ça permet largement d'améliorer l'écrit. En tout cas, je fais un petit peu ça avec les articles, et là, ça m'a pas mal aidé. Voilà pour ce petit préambule. Vous l'aurez remarqué, j'en suis fier. C'est une période assez centrée sur la thèse. Ça fait beaucoup de bien. Et donc, le premier article est soumis. Le deuxième, bon, j'ai oublié, mais en fait, voilà, celui dont je viens vous parler va être fini cette semaine. En tout cas, c'est un de mes objectifs. Et j'aimerais finir le troisième, donc l'étude des mesures de confiance, la semaine d'après, ce qui nous mènerait globalement à fin juillet. Et voilà, mon but c'est d'avoir 3 articles soumis d'ici fin juillet, début août. Je suis pas au jour près, mais pour l'objectif, ouais, d'ici fin juillet, 3 articles soumis. Je prends des vacances, il y aura sûrement pas de podcast pendant ces vacances. Et j'arrive mi-août, saison 3, avec vraiment une nouvelle. Une nouvelle étape en fait de ma thèse et enfin ces projets-là qui sont envoyés, alors pas du tout finis parce que vous commencez à comprendre le système, je vais soumettre, avant de soumettre ça se trouve je vais me dire bon je vais envoyer à mes co-auteurs, ils vont me relire donc ils vont revenir en septembre et dire modifie ça etc. Mais en tout cas une grosse étape de fait qui seront que j'aurai fini les versions finales de chacun de ces articles, ce qui fait qu'on pourra enfin, commencer ma thèse, j'allais dire, mais ma thèse est commencée, mais c'est étrange de commencer sa thèse avec des projets qui ont été faits avant. On n'a pas vraiment le sentiment de commencer sa thèse, même si dans les faits, je crois que maintenant ces 3 articles pourraient être inclus dans ma thèse, mais voilà, de commencer des nouveaux projets, en fait, tout simplement. Il y a quelque chose qu'on appelle le besoin de clôture, et c'est un espèce de besoin que beaucoup de gens ont à certains degrés. Je l'ai comme les autres, c'est pas quelque chose d'horrible chez moi, mais bon, il y a un moment quand des projets sont en place depuis 2 ans, 3 ans, on a envie d'envoyer ce putain de papier, si vous me permettez. Donc voilà, je suis heureux de me dire que on est à quelques derniers efforts d'envoyer ces papiers, de faire des vacances, et je l'aurai enfin, cette fin de saison marquée par des nouveaux événements assez marquants. J'espérais que ce soit un énorme chèque et que je vous dise ça y est, j'ai financé mes 3 ans. C'est pas spécialement le cas. J'ai toujours autant de portes qui s'ouvrent, mais toujours pas grand-chose qui rentre. Donc voilà, j'espère. Je place beaucoup d'espoir dans la rentrée parce que déjà beaucoup de choses se passent à la rentrée dans le public. Et voilà, j'espère que ça va exploser à ce moment-là. En tout cas, mon but, c'est de prendre de l'avance pendant les vacances sur la thèse, pour ensuite sûrement, et je l'espère, pas forcément perdre du temps à prospecter, mais juste perdre du temps à faire des prestations qui me rémunèrent à la rentrée. Et voilà, ça s'annonce plutôt bien. Je me rends compte en parlant que du coup, ça va un petit peu mieux personnellement, ça fait du bien en fait. Et ça fait du bien aussi de me remettre la tête dans la thèse. Et ça a été largement le cas grâce au congrès. Voilà, donc comme d'habitude, j'ai dit que ce serait sûrement un petit épisode autour juste d'un sujet et on est déjà à plusieurs minutes sur autre chose. Mais c'est pas grave, ça veut dire que je suis plus à l'aise à parler et que j'ai moins besoin de notes parce que j'avais quasiment rien noté, mais on est parti un petit peu en freestyle. Bref, tout ça pour dire et pour faire la transition vers le congrès international de psychologie sociale que j'ai fait toute cette semaine et que je vais vous expliquer maintenant. Alors, par où commencer? Le congrès a été extrêmement positif pour moi à plusieurs égards. D'abord, ça a été un moment pour me recentrer sur ma thèse, mais aussi sur la psychologie sociale en général et sur cette science que j'adore, hein, dont je crois qu'on peut dire que je suis passionné. Je suis embêté à parler de passion parce que j'ai grandi avec des gens qui étaient passionnés de choses et leur passion est dévorante, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire ça toute la journée, tout le temps. Moi, j'ai pas le sentiment que c'est mon cas, que je peux faire de la psycho tout le temps, quoique quand on y réfléchit. Quand j'arrête de faire dans ma thèse, j'aime parler de psychologie avec mes proches. Donc finalement, je pense qu'on peut plutôt admettre que c'est une passion. Et en fait, voilà, ça m'a rappelé à quel point c'était quelque chose qui m'intéressait et que c'est pour ça que je faisais tous ces efforts. Je me rends compte que, enfin, je le savais, je l'ai vu venir, mais il me semble que je vous l'ai dit. Mais le fait d'avoir la tête à fond dans le guidon et surtout dans l'entreprise, ça fait un petit peu perdre pied et on se dit juste demain je dois faire tel objectif, après-demain je dois faire tel objectif. Et on oublie un peu que on fait tout ça pour faire la thèse. On le dit, mais en fait, quand je dis on oublie, c'est qu'on oublie le sentiment de satisfaction que ça produit quand on aura atteint l'objectif. En fait, c'est vraiment ça, parce que dire, enfin, je l'ai vendu, justement, ça fait partie du travail, que je fais une entreprise pour faire ma thèse, pour faire ma thèse, pour faire ma thèse, mais c'est juste devenu une phrase dans laquelle je recherche chez l'autre un intérêt, ou je me dis c'est un argument presque marketing, en fait, alors que c'est vraiment ce que je veux faire, de la recherche. Et donc, quand je me suis remis dans l'écriture des articles et quand je me suis remis dans l'écoute de psychologie sociale à un congrès international, ça m'a fait revivre l'émotion positive que j'avais à travailler dans ce domaine. Et c'est en ça que ça rappelle en quoi c'est important et en quoi je suis intéressé par me trouver assez d'argent pour faire ça de ma vie. Parce que voilà, ça m'a rappelé dans mon corps et dans mes émotions à quel point j'avais envie de faire ça. Donc c'est super remotivant en fait. Ça a été très fatigant en termes de charge de travail et en termes même social, émotionnel, parce que je l'ai déjà dit, le social me coûte un petit peu. Et j'ai beaucoup travaillé en plus en plus du congrès et même pour préparer le congrès, que j'ai fait ma présentation un petit peu à la dernière minute. Mais voilà, ça m'a rappelé dans mon corps et dans mes émotions que c'était pour ça que je faisais des efforts et que je travaillais. Et en plus, ça a remis dans la balance entre les émotions reçues de l'entrepreneuriat et les émotions reçues de la thèse. Eh bien, malheureusement, enfin malheureusement, non, c'est un fait, mais là où je prends le plus de plaisir, c'est quand je fais de la psychologie sociale, quand j'écris des articles ou quand j'écoute des gens parler en cours et que je suis assis. Alors, normalement, les auditeurs qui m'écoutent ne sont pas très loin de mon profil, mais je sais que c'est un profil qui pourrait étonner pas mal de monde, voilà, qui déteste s'asseoir et écouter les gens théoriser de trucs abstraits. Moi, c'est ce que j'aime faire, et voilà, ça fait du bien de se rappeler ça. Donc, d'une part, ça m'a remis les pieds dans ma thèse. Je ne sais pas encore comment je vais nommer cet épisode, mais j'aimerais bien le nommer la thèse dans le guidon, contrairement à l'épisode d'avant. Ouais, je me suis décidé, donc voilà, ce sera la thèse dans le guidon. Et donc voilà, je recommande énormément aux doctorants d'aller dans des congrès. Sachez que j'avais pas envie, sachez que c'était pour moi une étape comme une autre, une liste, un point dans ma liste des choses à faire qui allait limite me ralentir sur le côté pas universitaire justement, professionnel. Mais ça a été très positif déjà pour le fait de me recentrer sur ce que j'aime et sur mon objectif. Ensuite, ça m'a rapproché de ma direction de thèse et des doctorants qui sont associés à ma direction de thèse. Et c'est aussi pour ça que je recommande de faire un congrès, c'est que c'est le moment de redécouvrir un peu les personnes avec qui on travaille. Ça m'a fait un peu l'effet classe verte, alors que j'en ai fait peu. Mais voilà, on passe un espèce de cap de convivialité et même d'amitié avec certains et d'affection avec d'autres. Parce que je n'irai pas jusqu'à parler d'amitié avec ma directrice de thèse, ne serait-ce que par respect de la hiérarchie, mais en tout cas, on s'entend bien et ça fait du bien de s'entendre encore mieux et de passer du temps, en fait, de vivre ensemble pour limite un peu mieux se comprendre. Donc ça aussi, c'est un des points positifs que je ne vais pas développer. Je ne vais pas vous expliquer les soirées, mais en tout cas, pour promouvoir un petit peu le fait de participer à un congrès et d'y aller pas tout seul, c'est pas mal. Je me suis aussi rendu compte que les événements sociaux que j'ai faits du côté entrepreneuriat étaient bien plus durs que cet événement social-là, parce que finalement, c'est un événement aussi pour faire du réseau. Et donc, ce que j'ai fait, et je vous le dis parce que je vous le recommande, mais d'aller dans des salons, dans des journées, etc., quitte à pas être à l'aise et à devoir partir, hein, chose qui est arrivée, il y a des fois où j'étais pas à l'aise, et ben en fait, je trouve que dans le milieu entrepreneurial, c'est bien plus dur que dans le milieu académique, peut-être parce que c'est plus fréquent, peut-être parce qu'il y a encore plus d'objectifs financiers finalement, et que c'est un peu plus explicite qu'on doit faire du réseau, donc ça rend les choses saillante et stressante, mais en tout cas, je me suis rendu compte que le fait de m'avoir mis dans des événements bien plus stressants, bah là, en fait, au congrès, j'ai vite été à l'aise, et en fait, le fait de vite être à l'aise, bah, ça permet de pouvoir se faire des contacts, et bah, j'ai pu aller parler à des gens. On m'a aussi, même principalement, mis en relation avec des gens, par exemple, ma directrice de thèse qui m'a dit, ah, tiens, je te présente un tel. Et en fait, il s'avère qu'on m'a présenté des pontes de mon domaine, des gens assez connus, très connus même, qui sont considérés comme des experts dans un sous-domaine de la psychologie sociale, mais même des experts en psychologie sociale au niveau européen. Et donc voilà, ce dont permet un congrès aussi, c'est de faire de belles rencontres. Et donc je ne vais pas trop m'avancer, ni dire de non. Mais j'ai eu du coup l'opportunité d'avoir des grands noms de la psychologie sociale française, francophone, européenne, qui m'ont invité dans leur laboratoire pour que je fasse un stage. Et donc c'est une opportunité en or de avancer dans ma thèse. Et c'est, enfin, voilà, au niveau relationnel, en termes d'opportunités de carrière, c'est quelque chose qui est extrêmement favorable. Alors, encore une fois, et pour ceux qui suivent ma trace de financement de thèse, comme quoi l'entrepreneuriat aide beaucoup à la thèse, c'est-à-dire que j'ai autant eu d'habitude de faire des événements sociaux que d'habitude de recevoir des invitations et des potentielles collaborations dans ces événements sociaux. Donc des gens qui m'ont dit qu'on allait faire des choses ensemble. J'en ai connu, je pense qu'on peut quasiment dire, bon, peut-être pas des centaines, mais peut-être une centaine. Donc je sais très bien que entre ce qui est dit et ce qui est signé, rien n'est fait. Mais la porte est ouverte. Je pense qu'on est dans un milieu où, étant donné qu'il n'y a pas d'argent en jeu, on a moins de mal à faire aboutir ce genre de projet. Parce que voilà, quand dans un salon on dit, ah, on devrait faire quelque chose ensemble, ça amène du business, donc ça amène potentiellement une négociation, un contrat, c'est compliqué. Et je le comprends, hein, je critique pas du tout. Moi aussi, j'ai dû faire des promesses et des suggestions qui n'ont pas été abouties. En tout cas, là, on est quand même dans un domaine où personne ne perdrait, ni peut-être ne gagnerait d'argent, mais du coup, c'est potentiellement. Potentiellement que gagnant-gagnant, en fait, c'est soit gagnant-gagnant, c'est-à-dire que moi, je leur apporte un petit peu un œil neuf sur leur thématique, ou je suis au moins un peu intéressant, et soit c'est gagnant-perdant, c'est-à-dire que moi, j'ai tout à gagner, mais eux, à la limite, voilà, je sers pas à grand-chose, mais voilà, je vais pas les empêcher de faire de la recherche. Donc, il n'y a pas grand risque, en fait, à faire aboutir ce genre de choses, donc. Je pense que la balle est dans mon camp. On m'a proposé d'aller dans un grand laboratoire européen. Et il faut que je dise oui. Et surtout, au lieu de dire oui, il faut que je relance la roue, que je continue à discuter avec ceux avec qui j'ai discuté pour mettre en place ça. Parce que concrètement, dans mon petit domaine, et j'accepte que ce soit un petit domaine dans lequel personne connaît les gens connus. Mais globalement, c'est comme si un Zidane venait de m'inviter à m'entraîner dans son club. Et donc c'est quelque chose qu'on refuse pas et quelque chose sur lequel on relance. Donc voilà, j'avoue que ça fait extrêmement plaisir. En fait, je me suis rendu compte que mon thème de recherche était, je vais dire à la pointe, mais à la pointe ça veut pas dire excellent, mais au bout des recherches aussi en psychologie sociale, ça veut dire que mes questions sont celles que les experts sur d'autres domaines se posent aussi. Et du coup, là où je pensais moi que mon sujet assez niche de la confiance serait mieux éclairci par d'autres thématiques. Et ben en fait, c'est plutôt dans les deux sens, c'est-à-dire que même ce que j'ai compris de la confiance peut aider à mieux comprendre ces autres thématiques bien connues en psychologie sociale. Donc ça veut dire que je peux avoir un apport vraiment sur la littérature et dans la confiance et dans d'autres sujets. Et donc ça, c'est très valorisant et ça donne envie de le faire. Donc voilà, on m'a proposé un stage. Qu'il faut mettre en place, c'est pas signé, ça se trouve ça se fera pas, ça se trouve c'était des parents en l'air, ça se trouve ils ont déjà oublié qui j'étais, mais je vais faire en sorte de pas aller dans ces ça se trouve et profiter de l'opportunité qu'on m'offre et qui, bah, sincèrement, qui donne du baume au cœur, hein, qui même m'a ému un petit peu parce que c'est un petit peu une validation du milieu que mon sujet est intéressant, sachant que ça fait 3 ans que je défends ce sujet. Que j'ai eu globalement des vents, des personnes qui m'ont invité chez eux. Donc c'est un petit peu une vengeance personnelle, pas négative, mais voilà, c'est des gens à qui j'ai voulu, avec qui j'ai voulu faire ma thèse et qui souvent m'ont pas, bah, tout le temps m'ont pas répondu. Et ça fait plaisir de voir que après tant d'années, il y a de l'intérêt. Donc voilà, c'est une étape assez importante dans la confiance que j'ai en mes idées et en mon sujet. Et je le souhaite à tout doctorant, en fait, d'avoir la reconnaissance de ses pairs et la reconnaissance des auteurs qu'on a lus et qui ont fait qu'on a aimé notre discipline. Je le souhaite et c'est encore un argument pour lequel il faut aller dans un congrès. Donc voilà, étant donné que je tourne le podcast de plus en plus vers la transmission, j'essaye en fait de faire la promotion des congrès pour les doctorants qui ou ceux qui vont en doctorat pour que vous rendiez compte à quel point c'est pertinent et c'est important d'aller à ces événements-là. Et en plus, de montrer que le modèle de financer sa thèse permet quand même d'avoir plus d'armes que d'autres, je pense. Et je prends pour exemple le fait que j'ai pu donner des cartes, mes cartes d'entrepreneur, à des gens dans le salon. Chose que bah, j'aurais physiquement pas eu de carte si j'avais pas fait une entreprise à côté. Et en plus, j'aurais jamais eu le courage en fait de me dire ah, tiens, tu veux ma carte, on se rappelle, voilà. Je suis pas non plus le plus à l'aise ni le plus extraverti, mais je me compare à moi, pas à moi avant, hein, pas du tout aux autres. Mais moi, il y a 2-3 ans, contre moi maintenant, qui a mis en place une entreprise et qui a essayé de la vendre à des centaines de personnes, et bah, c'est beaucoup plus simple de réseauter. Donc voilà, n'ayez pas peur, si vous voulez financer votre thèse, il y a bien des compétences transférables et ce qui est dur d'un côté deviendra plus simple de l'autre. Et là, c'est la première fois où je me prends enfin, un feedback positif où je me dis, ça y est, j'ai pris un petit peu en confiance et ça fait du bien. Et la deuxième compétence transférable, c'est la présentation. Parce que j'ai compris que moi, j'ai préparé ma présentation le 2-3 jours avant, qui s'est très bien passé d'ailleurs. Mais j'étais pas spécialement stressé, même si on est toujours stressé, surtout. La veille, ça allait encore, mais surtout le matin même, voilà, c'est normal. Mais j'étais pas tétanisé, là où je sais que pour certaines personnes, leur premier congrès international, c'est quelque chose de très stressant. Et je pense qu'en fait, je me suis mis. En fait, les temps durs, les temps durs rendent des hommes durs, c'est-à-dire que je me suis tellement mis dans des situations stressantes depuis des années, mais d'autant plus depuis ces 6 derniers mois, que sincèrement. C'était une présentation comme une autre. Enfin, quand j'ai fait des présentations pour avoir un prix étudiant, et ben là, on fait une présentation, mais en plus, il y a des personnes qui vont nous juger, nous critiquer et potentiellement nous donner de l'argent derrière. J'ai fait des dizaines de présentations pour vendre un projet de thèse où je pouvais potentiellement sortir avec un début de contrat de 100 000 euros. Faire du réseau, discuter avec des gens, c'est bien pire, je trouve, parce que là, il n'y a personne qui attend que vous parliez, c'est-à-dire qu'il faut créer la discussion. Donc aller dans des réseaux, dans des sphères, dans des salons, en tout cas quand on n'est pas à l'aise comme moi, mais aller dans des salons et de devoir lancer la discussion et essayer de aller vers un petit peu la promotion de son sujet de thèse et de son sujet de prestation, je trouve ça beaucoup plus dur que faire une prestation de 15 minutes réglée où tout le monde est là pour vous écouter. Et voilà, en tout cas, ça fait plaisir de voir que me mettre dans des situations compliquées m'amène à être plus à l'aise dans certains côtés de ma vie. Et donc là où le réseau est un peu plus dur du côté entrepreneurial, et bah du côté thèse, finalement, c'est plus facile. Encore une fois, je suis pas le meilleur, mais juste en me comparant à moi avant, et juste au fait que bah, j'ai pris du plaisir, je pense que l'événement est gagné. Je me dis pas que j'aurais pu parler à plus de gens. Il y a d'autres doctorants qui étaient à l'aise qu'on parlait à plus de gens. Mais en tout cas, j'ai parlé à des personnes sans spécialement stresser et j'ai abouti à deux propositions, pour être précis, deux stages dans des universités, une en France et une pas en France. Et voilà, c'est super important et je pense que c'est pour ça qu'il faut aller à un congrès. Et c'est même pour ça que j'ai mes premiers arguments pour lesquels il faut pas. Mais pour lesquels ça peut être pertinent de financer sa thèse en termes de compétences transférables. Donc voilà, des rencontres de gens que je connaissais pas, qui m'ont ouvert des opportunités, et une meilleure centration sur mon sujet, un meilleur retour à ce que j'aime vraiment dans ce que je fais, et de la convivialité, et un gain relationnel et du temps passé avec des doctorants et sa direction de thèse. Voilà les arguments qui font que je recommande d'aller dans un congrès et qui font que le mien s'est bien passé. Et je pense que on va clôturer cette partie congrès. Je pense que j'ai transmis ce que j'avais à dire. Enfin, pour finir, il y a un sujet que j'ai teasé en début de podcast et je vais en parler rapidement. C'est que j'ai le sentiment que tout ça m'a rappelé que j'étais pas obligé de faire rapidement ma thèse, et que c'était même peut-être quelque chose de négatif de faire rapidement sa thèse, et que je m'en veux pas du tout parce que c'est très difficile de sincèrement être chaud financièrement, et donc de devoir être rapide sur son évolution entrepreneuriale, et de pas le court-circuiter à la thèse. Mais en fait, ça m'a rappelé que déjà, ça m'a redonné confiance en moi, le congrès, par rapport à mes idées. Ce qui fait que, je sais pas, ça donne un sentiment assez assuré de se dire, je suis bien parti. Et c'est pas dramatique de faire ma thèse en plusieurs temps. Et je pense que c'est utile de trouver un rythme de croisière pour la thèse. Le côté entrepreneurial, tant que je suis pas très à l'aise financièrement, je pense que c'est utile d'aller vite. Mais je me sens un peu mieux de délaisser un petit peu ma thèse quand il faut. D'une part parce que ça a été discuté avec ma direction de thèse, où voilà, peut-être qu'on partira plutôt dans des phases où je suis un peu plus entrepreneur, des phases où je suis un peu plus doctorant. Et en comprenant en fait que le fait d'avoir du recul, c'était essentiel à faire une thèse, et qu'une thèse, si on veut la faire vite, on a tendance à la bâcler. Alors, j'ai pas envie de tomber du tout dans le fait de j'ai le temps, j'avance pas, etc. Mais voilà, je pense qu'on ne peut pas, et que c'est difficile en fait de faire une thèse en sprintant, avec encore l'analogie du marathon. Mais je pense qu'il faut savoir se laisser du temps, et peut-être que des moments d'alternance, plutôt que des moments de co-occurrence, peuvent être intéressants pour la thèse. Ça fait peut-être partie des choses que je vais réfléchir, ou je pense que je me laisserai surtout aller par le milieu. Sûrement en septembre, je vais avoir quelques cours à la fac et puis il risque d'avoir des prestations qui vont tomber. Peut-être que ce sera un moment un peu d'écart avec ma thèse, mais qui rendra les choses positives parce que ça me fera vivre un peu dans le milieu dans lequel j'étudie. Et donc, je pourrais, je pense, revenir vers ma thèse avec de nouvelles idées. Et donc, voilà, c'est assez important que je garde en tête que c'est pas grave de pas faire une thèse vite, là où pour l'entreprise, tant que je suis pas à l'aise, on va essayer d'aller vite. Mais pour la thèse, essayer de retrouver un peu de paix, un peu de calme. Mais là, je le savais et c'est normal. Je me suis beaucoup pressé par pression de deadline, etc. Mais là, sincèrement, j'aimerais envoyer mes deux articles restants et pouvoir souffler et pouvoir reprendre la thèse calmement en me disant c'est bon, je suis sur les rails, maintenant on suit le plan, tranquille, on avance doucement mais sûrement, enfin surtout sûrement et sans réfléchir même à la cadence, c'est-à-dire que si je me sens bien et que la cadence est élevée, elle restera élevée, mais si je me sens bien et que la cadence doit être faible parce qu'il faut que je me repose pour revoir mes articles de manière plus générale, et bah ce sera fait aussi. Donc voilà là où ce sur quoi j'ai avancé sur mon développement personnel et même sur le congrès, ce que ça m'a apporté. Je pense que ça s'entend et j'essaie de le transmettre en plus de le faire ressentir. Ça m'a fait beaucoup de bien. J'estime que ouais, les prochains objectifs, articles plus vacances, ça vous amènera à une nouvelle saison qui sera vraiment marquée de changements. Et moi, je pense que ça va vraiment me faire du bien. Et donc voilà, il reste que quelques épisodes pour cette saison 2, la saison de toutes les émotions. Je ferai sûrement des épisodes. Ça se trouve, je ferai des épisodes thématiques sur les articles. Ce sera ce moment-là, puisque j'aurai fini par les écrire. Je ne sais pas. Mais donc, voilà. Théoriquement, fin de saison 2, fin juillet, début août. Et voilà. D'ici là, je vous souhaite toujours des bonnes semaines, une bonne semaine, de bonnes vacances potentiellement. Et à lundi prochain pour le prochain épisode de Bip Bip.